Radio Galère, carte de pancarte de la bande FM marseillaise. L'histoire continue et permanente, une émission proposée et réalisée par Éric Lebreu. Aujourd'hui, les accords d'Oslo, une vision critique de Bruno Étienne. Première partie, critique des accords d'Oslo et complexité de la société palestinienne. Bruno Étienne est un anthropologue, sociologue et politologue français né en 1937 et décédé en 2009. Spécialiste de l'Algérie, de l'islam et de l'anthropologie du fait religieux, il est une des premiers politologues à s'intéresser à l'islam comme fait politique. En 1980, il dirige le centre de recherche et d'études des sociétés méditerranéennes d'Aix-en-Provence jusqu'en 1985. Professeur de sciences politiques, il intègre l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, fondateur et directeur jusqu'en 2006 de l'Observatoire du religieux dans le cadre de l'Université d'Aix-en-Provence. Il a été professeur invité aussi bien en Tunisie qu'en Égypte, en Turquie, en Syrie, en Israël-Palestine, aux États-Unis et au Japon. Inventeur de l'expression « Islam de France », Bruno Étienne est l'inspirateur du Conseil français de culte musulman. Il est à l'origine d'une véritable école de recherche à Aix-en-Provence. Il a marqué par son engagement plusieurs générations d'étudiants aixois. En 1990, il signe l'appel des 75 contre la guerre du Golfe. L'entretien avec Bruno Étienne avait été réalisé en octobre 1993 avec Sami Béji et Olivier Morel juste après la signature des accords d'Oslo à Washington le 15 septembre 1993 par Yitzhak Rabin, Premier ministre israélien, Yasser Arafat, président du comité exécutif de l'OLP, et Bill Clinton, président des États-Unis. L'entretien a donc été réalisé à un moment où bon nombre de personnes croyaient à la fin définitive du conflit israélo-palestinien, bien avant l'assassinat, le 4 novembre 1995, d'Yitzhak Rabin par Yigal Amir, un extrémiste juif religieux, étudiant en droit et opposé aux accords d'Oslo. Dans cet entretien, qui sera diffusé en deux parties, Bruno Étienne expose une vision critique des accords d'Oslo et s'interroge sur la complexité de la société palestinienne et sur la situation du Moyen-Orient au lendemain des accords d'Oslo, c'est-à-dire en 1993. Cet entretien avait été diffusé une première fois en octobre 1993 sur Radio Galère et sur Fréquence Paris Pluriel. Je précise que les propos de Bruno Étienne sont diffusés à titre de document et que chaque auditeur est libre d'approuver ou désapprouver ou nuancer son argumentation. Ils sont ici pour enrichir le débat sur la question très complexe israélo-palestinienne. Précisons que cet entretien a été réalisé en 1993.
Alors, moi, ce qui me fascine dans l'actualité, c'est le retournement des gens. Tout d'un coup, alors, c'est-à-dire que ce que nous disons, moi et quelques autres, depuis des années, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exemple dans l'histoire où on ne traite pas avec les ennemis, l'OLP, organisation terroriste, venant de Yitzhak Rabin ou d'autres gens comme ça, c'est assez rigolo. Et je me rappelle même des étudiants de Sciences Po se levant et quittant l'amphi parce que j'avais dit qu'un premier ministre israélien, c'était jamais qu'un terroriste qui avait réussi, etc. Oui. Et aujourd'hui, les mêmes te tapent sur le ventre en disant « Ah, je te l'ai toujours dit, je te l'ai toujours dit ». Bon, ça, c'est, je trouve ça assez fabuleux sur le plan de ce qu'est l'humanité, ce qui m'engage à être encore plus sceptique pour la suite. Après qu'il y a Clinton qui bombarde Bagdad, personne ne dit rien. Et puis on nous fout 20 minutes de l'OM le jour des accords. Bon, voilà. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, moi je suis très sceptique et je n'ai pas partagé l'enthousiasme de tout le monde sur l'accord parce que, une fois de plus, on est sur la même problématique. On nous a gonflé à la télé, à la média pendant des heures en direct de Washington. Mais à part les spécialistes, je veux dire à part le monde diplomatique ou des revues, il n'y a eu aucune analyse sérieuse tenant et aboutissant de ces accords. Et moi, je trouve ça assez dramatique par rapport à... Non, mais même, c'est vrai que la presse essaye de faire un truc, mais c'est pas ça, je veux dire, c'est pas ça le travail sérieux. Alors, j'en suis de plus en plus brodélien. L'actualité et les événements qui transforment les sociétés ne passent complètement inaperçus aux yeux de leurs contemporains. Donc, à la limite, j'en ai rien à carrer de cet accord. Ou alors, il faudrait expliquer des choses très, très complexes sur le fait que les partis étaient acculés, que l'OLP était faible, que... moi, je pense que c'est seul le Likoud pouvait négocier, etc. Donc ça, les véritables causes sont ailleurs. c'était d'essayer de replacer ces négociations actuelles pour nos auditeurs dans le cadre d'une réflexion plus globale sur la question palestinienne comme symptomatique de toutes les questions et de toutes les lignes de force qui travaillent le Moyen-Orient, au moins depuis l'Empire ottoman, comme tous les chercheurs le précisent, quelquefois, et non pas d'être victime de l'éphémère et du triomphalisme un peu naïf des journalistes dans les déclarations de joie qui ont très facilement succédé aux déclarations de guerre vis-à-vis de l'Irak. Donc c'était montrer d'une part qu'est-ce qui a pu, comme vous le signifiez déjà dans vos propos, acculer les deux parties à un accord avec les arrière-pensées, les faiblesses, les manques, les handicaps qui ont fait que l'OLP, l'Organisation de Libération de Palestine, soit passée par différentes stratégies d'une guerre de libération nationale à cette façon de traiter les territoires occupés sur l'option Gaza-Jéricho d'abord. Et du point de vue d'Israël, comment on est venu à reconnaître une organisation certes affaiblie par rapport à la concurrence d'autres organisations comme Hamas. C'était essayer de poser une question sur qu'est-ce qui amène justement les ennemis d'hier à négocier et comment replacer la stratégie des uns et des autres sur au moins 2, 3, voire 4 décennies, quoi. D'une part, les différentes stratégies de l'OLP et d'une part, comment Israël a essayé de reculer le plus possible la reconnaissance de l'OLP et comment on est arrivé à cette renégociation. Pas simplement pour s'étonner devant l'énigme de la surprise, mais essayer de voir les lignes de fond qui ont fait que la question nationale palestinienne n'est plus posée tellement en termes de question nationale et qu'elle se fragmente en plusieurs questions, les réfugiés de 48, les réfugiés de 67, territoires occupés et l'OLP.
De 12 minutes, j'avais jamais
ouais.
entendu ça.
Moi, je pense, dans un premier temps, pas surprendre, enfin, surprendre peut-être des auditeurs, mais pas surprendre ceux qui me connaissent, moi, je ne raisonne pas du tout comme ça. Ça veut dire qu'Israël, ça n'existe pas. Ça ne veut rien dire, Israël. Il y a des forces complexes à l'intérieur et à l'extérieur d'Israël qui font que les stratégies ne sont pas les mêmes. Par exemple, si je vous disais que le véritable créateur, même s'il ne le voulait pas, de l'émergence des nouvelles élites de l'intifada, ça a été Dayan, parce que Dayan a été le meilleur gouverneur des territoires occupés militairement, parce que c'est lui le premier qui a mis en place les comités municipaux, ce qui va donner les comités de quartier à la fabrication des nouvelles élites. Donc, alors qu'à Gaza, la gauche s'est fait éliminer au profit de certaines associations islamiques. Deuxième exemple, l'OLP non plus, ça n'existe pas, c'est un conglomérat, c'est un front hétéroclite, et Hamas aussi, ça n'existe pas, puisque moi, ce que j'ai pu voir à Gaza, ce sont des associations islamiques et non pas des militants islamistes radicaux, très très implantés dans le tissu social et dans la société civile, qui quadrillent selon les bonnes techniques musulmanes, qu'on peut résumer en français par les restos du cœur plus la zakat, et qui n'ont rien à voir avec les associations islamistes radicales qu'on a décrites les uns et les autres, qui sont que le haut de l'iceberg là-dessus. Troisièmement, le problème palestinien, à mon sens, s'est jamais posé clairement en termes de problème national. Il s'est posé dans d'autres termes. Alors, ça c'est un truc, moi je suis un vieil anard, comme chacun le sait, je pense que le patriotisme est une régression dans l'histoire de l'humanité. Les Palestiniens, ils vont faire comme tout le monde, ils vont avoir leurs états, leur état, c'est-à-dire qu'ils vont devenir aussi cons que tous les autres, ils vont devenir, c'est normal, c'est un processus, et c'est là où on va avoir des surprises, et c'est de ça que je préférerais parler. Parce que la surprise qu'on va avoir, c'est que peut-être les Palestiniens sont en train de fabriquer des formes de gestion et des formes d'administration qui ne correspondent pas à l'état hégélien, donc, et l'état de droit, donc ils se tapent royalement. Je parle des Palestiniens de l'intérieur, et les difficultés qui vont avoir lieu, c'est pas simplement comme je le vois et j'entends dans la presse, qui va maintenir l'ordre entre les colons, tout ça c'est des conneries, c'est quelle va être la nature de l'État palestinien. Or je reviens à ce que je viens de dire sur les nouvelles élites émergées de l'intifada, moi j'ai été stupéfait sur le terrain de voir comment étaient gérés Ramallah, Naplouse, Birzeit, j'étais à l'université de Birzeit, comment était géré Gaza. Mais les gens hésitent, hein, les Israéliens, les Juifs, les Arabes, tout le monde, les territoires occupés, les territoires administratifs. Non, les territoires sont déjà auto-administrés. C'est-à-dire que les Palestiniens, abandonnés par tout le monde, il faut bien le rappeler, et surtout par leurs frères arabes, il faut le rappeler, ont pris l'habitude de gérer un certain nombre de choses. Moi, ce qui m'a frappé, par exemple, c'est que les jeunes Israéliens de votre âge, ben, ils savent l'hébreu. Les Israéliens les connaissent, ils savent qui c'est. Alors je ne dis pas que c'est la fraternité, mais ils ont géré, Jéricho c'est de la merde, n'en parlons pas, on y reviendra si vous voulez, c'est pas pour rien que ça a été choisi. Mais Ramallah et Naplouse, c'est des villes de 150 000 habitants. L'université de Birzeit, c'est une université qui ne dépareillerait pas dans la moitié des universités françaises. Et c'est géré par les gens de l'intérieur, par les bourgeois nantis, par les militants. Moi, j'ai fait une conférence publique à Birzeit. Ça allait du Parti communiste à Hamas, avec des jeunes filles magnifiques, avec la croix sur la poitrine, et un débat complètement démocratique que je n'aurais pu mener dans aucun pays arabe. Alors, tout le monde va avoir des surprises. Moi, j'ai un collègue de l'université de Gaza qui m'a dit, on a été administré par les Ottomans, on a été administré par les Britanniques, on a été administré par les Égyptiens, on a été administré par les Israéliens, mais vous allez voir ce qu'on va faire, nous. Et je ne suis pas tout à fait sûr qu'il y ait un État palestinien au sens où, par exemple, l'Algérie est indépendante. Je ne suis pas sûr du tout.
Est-ce que, d'une façon provocante, on ne peut pas dire d'une certaine manière, alors, si la société est ainsi quadrillée par des associations, que la création d'un État palestinien est un combat d'avant-garde, regarde, avant même qu'il soit créé, quoi.
Je vais dire deux choses, je vais dire trois choses là-dessus. D'abord, moi j'ai été frappé qu'à Gaza, il y a des gens qui m'ont dit, pour nous la Jordanie c'est plus près que Birzeit. Il y a le problème jordanien. Plus exactement, il y a le problème palestino-jordanien. C'est que les relations sont absolument constantes. Comme il y a plus de juifs à New York qu'en Israël, il y a plus de Palestiniens à Amman qu'en Palestine. Bon. Seulement, ce que l'occupation n'a absolument... L'occupation, assez curieusement, elle a plus coupé l'eau que les gens. Ça, c'est fabuleux. Le problème numéro un d'Israël-Palestine, c'est nous, c'est pas les gens. On va peut-être parler du problème des retours, qui est un autre problème. Alors, premier point, Gaza, d'une certaine manière, est déjà une république islamique plus tournée vers l'Arabie Saoudite, le Koweït et une certaine Jordanie. Car il ne faut pas oublier, tout le monde parle de Hamas. Il y a aussi les frères musulmans. Il y a aussi, par exemple, moi j'ai assisté à un petit combat un soir dans le camp de Chati, c'était les Aigles Rouges. Les Aigles Rouges, ça n'a rien à voir ni avec les frères musulmans ni avec Hamas. C'est des groupes autonomes de jeunes gens de 16 ans qui font la guérilla tout seuls contre contre des soldats israéliens qui ont 18 ans. Et qui en général sont falachas ou juifs marocains et qui ne sont pas des bourgeois de Tel Aviv, rassurez-vous, ceux-là ils ne vont pas dans les territoires occupés. Bon, donc il y a des interprétations assez fantastiques là-dessus. Deuxièmement, alors que Ramallah ou Naplouse, là on se croirait à peu près, enfin je vais exagérer, dans la campagne angevine. Les gens parlent anglais, les gens parlent français, ils ne sont pas plus musulmans que vous et moi, ils sont déjà des occidentaux au sens le plus large du terme, sur le plan de la consommation. Et là, ils sont plus nationalistes que islamistes, disons. Mais ils sont nationalistes, et on revient à la question, pas pour créer un État nouveau, parce que là, alors, eux aussi sont d'accord qu'un système confédéral complexe permettrait de résoudre un certain nombre de problèmes. Alors, je reviens au problème numéro un, qui n'est pas perçu par les gens à l'extérieur, l'eau. Après la guerre du Golfe, nous savons que la Turquie contrôle toute l'eau du Moyen-Orient. Nous savons que Israël ne cédera pas le sud Liban, la rivière Litanie et le contrôle d'un certain nombre de montagnes. L'accord avec la Syrie se fait sur un partage de réel politique, les Syriens s'engageant à maintenir la zone de sécurité d'Israël pour le nord Galilée. Parce que ça, la Galilée, ils ne rendront pas. C'est pas plus compliqué que ça, ce qui va poser le problème des réfugiés. Parce que les gens à Gaza m'ont dit, les gens de Birzeit ou de Cisjordanie, ils sont tranquilles, ils sont chez eux. Mais nous, on va rentrer où ? Alors là, on revient aux accords. Il y a deux problèmes qui ne sont pas réglés par les accords. Je réponds indirectement au premier. La seule solution de l'eau, c'est une confédération internationale. Parce que de l'eau, il n'y en a plus. C'est pas compliqué. À Gaza, il n'y a plus d'eau. Parce que les Israéliens arrêtent et les rivières et pompent sur la nappe phréatique. Ensuite, les systèmes d'arrosage. Les colonies agricoles de Gaza, ils vont les laisser, puisque je vous ai dit, ils sont tous en cheville. Moi, j'ai vu, enfin, je ne peux pas non plus tout raconter, mais j'ai passé une demi-journée chez un capitaliste palestinien, ça existe, dans une villa beaucoup plus belle que la mienne, avec trois Mercedes devant, et qui avait devant chez lui 14 à 15 hectares de serres et de fraises qui partent après, qui s'appellent, si vous voulez manger à Marseille, ça s'appelle les fraises du Carmel. Bon, ça passe par où, ça ? L'argent va où et vient où ? Il faut être sérieux. Bon. Ces gens n'ont qu'un souci, c'est de bénéficier de la technologie israélienne. Je termine sur le deuxième point, confédération. Mais dans le partage qui est en train de se jouer, et ça nous ramènera à une question principale, il est évident que le roi Hussein de Jordanie est le grand vaincu de la guerre du Golfe, mais il a quelque chose que n'ont pas certains autres, c'est-à-dire qu'il a une forme de légitimité qui va être utilisée dans le statut de Jérusalem, à condition qu'on revienne un peu sur le statut de la Mecque. Ça, c'est un vieux dada. Je vous rappelle que l'Église catholique, ou le Vatican en tant que puissance symbolique non négligeable, ne laissera pas traiter ce problème n'importe comment. Et que
là, on est devant ce paradoxe extraordinaire, c'est que les Palestiniens sont symboliquement attachés à un petit morceau de Jérusalem, mais qu'ils vont trouver un allié curieux en la personne du Vatican pour des raisons complètement différentes. Parce que moi, je peux vous certifier que sur le plan religieux, les Palestiniens, ils s'en foutent de... c'est pas ça l'argument, c'est pour d'autres raisons. Alors, reste un gros problème, et on aurait pu commencer par là si on avait commencé par la théorie. Moi, j'ai longtemps soutenu que les acteurs secondaires au Proche-Orient arriver à faire à leurs patrons, URSS, États-Unis, des choses que les patrons n'avaient pas toujours envie de faire. Et on a eu quelques exemples où la Syrie a mis au pied du mur l'URSS et où Israël a mis au pied du mur les États-Unis. Eh bien, moi, je dis qu'il y a eu des négociations pour une seule et unique raison, c'est que cette période-là est terminée. Plus d'opposition Est-Ouest et les Américains, pour des tas de raisons, déjà l'administration précédente était plutôt... réticente sur les exigences sionistes, les lobbies ont changé de stratégie, il y a le problème de savoir qui va contrôler l'Est musulman des Turcs et des Iraniens, le problème de l'OPEP, car je vous rappelle que si le Koweït et l'Irak lâchent leurs quotas, sont autorisés à remettre leurs quotas sur le marché mondial des hydrocarbures, le marché s'effondre, on est à $14 le baril de brut arabica, ce qui correspond à peu près à la moitié du prix de l'année 73. On ne peut pas descendre plus bas, sauf une crise mondiale absolument fantastique. Donc, tous ces éléments ont fait que, pour ce que vous avez signalé tout à l'heure, la faiblesse de l'OLP et le fait que les travaillistes sont venus en place en Israël, il y a une autre raison que je vous dirai psychologique tout à l'heure, ont fait que les patrons, quoi qu'ils en disent, même si, j'allais dire, les Israéliens et les Arabes ont trouvé, et les Palestiniens ont trouvé une solution astucieuse pour quand même un peu les court-circuiter, ce que on vérifiera dans 50 ans par les archives, je ne suis pas tout à fait sûr. Là, c'est tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a tapé sur la table et qui a dit « Bon, maintenant, ça suffit. On n'a plus assez d'énergie à gaspiller là-dessus. » Il y avait une autre variable que nous avons connue en France, et puisque plusieurs personnes m'ont reproché d'avoir comparé avec la situation algérienne, et je maintiens ma comparaison, c'est que moi j'ai interviewé pas mal de gens en Israël, donc alors là, dans ce même voyage, d'après les chiffres que j'ai eus, il y avait entre 1000 et 1500 jeunes gens et officiers de l'armée israélienne qui refusaient désormais d'aller servir dans les territoires occupés. Alors si vous faites des petites péréquations, ça c'est vachement intéressant, quand vous pensez qu'il y a eu 150 déserteurs dans l'armée française sur 4 à 5 millions de jeunes gens qui ont fait leur service militaire pendant 8 ans, la proportion est absolument considérable. C'est-à-dire qu'on atteint des chiffres, ça veut dire que 40% de la population éventuellement mobilisable a des réticences sur un certain type de travail qu'on fait faire à l'armée israélienne dans les territoires occupés. Et nous avons quelques études de psychopathologie là-dessus, depuis la guerre du Liban qui a été une catastrophe sur ce plan-là. Et je crois qu'il y a eu des changements. Ça correspond à quoi? Eh bien, tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, les nouvelles élites issues de l'intifada ont appris à connaître les Israéliens. De la même façon, il y a eu des changements en Israël qu'aucune personne de l'extérieur ne peut imaginer et qui fait que, sur un certain nombre de points, avec la faiblesse de l'OLP et un dernier point, un échec patent qu'on pourrait appeler l'échec du sionisme, c'est-à-dire qu'Israël était en train de se vider. Et le changement qualitatif de la population est tel qu'il ne manque pas de gens pour vous dire qu'Israël s'est orientalisé par rapport aux fondateurs de l'État d'Israël. Et quand on pense à Hess qui disait Israël, le sionisme sera socialisme ou ne sera pas, et bien aujourd'hui le plus gros groupe d'oppression en Israël c'est les juifs marocains. Donc là il y a des changements que donc des tas de gens ont vu comme ça, mais qui ont fait qu'il y avait un faisceau de raisons qui faisait qu'on allait pouvoir négocier. Sur les accords eux-mêmes, alors là, moi, je reste d'un scepticisme avancé, parce que si les Israéliens avaient vraiment voulu faire une expérience d'autonomie administrative, ils l'auraient faite à Ramallah et à Naplouse, et ils auraient détaché Nazareth, et non pas à Gaza. Gaza, pour eux, c'était ingérable, et ils s'en sont débarrassés royalement, avec la double astuce, bon, c'est légitime, hein. Si ça marche, ils vont dire, vous voyez, on a joué le jeu. Si ça marche pas, comme je le crois, ils diront, vous voyez, les Arabes, ils sont incapables de se mettre d'accord sur quoi que ce soit, et ils auront raison, parce que ça ne marchera pas. Quant à Jéricho, je ne sais pas si vous connaissez Jéricho, c'est grand à peu près comme, qu'est-ce que je vais dire, comme, j'ai pas d'exemple, c'est grand comme Pertuis à peu près. En plus, c'est à 240 mètres en dessous du niveau de la mer, donc on ne peut pas y respirer, on ne peut pas y mettre un gouvernement parce que les types ils vont avoir des infarctus à longueur de journée. Et surtout, il y a le pont Allenby que les Israéliens ne rendront jamais, ça c'est évident. Alors, pourquoi? Le problème c'est que, symboliquement c'est intéressant, moi d'après mes renseignements, hein, des copains, c'est au dernier moment que l'OLP a arraché ça, parce qu'il n'était même pas question de Jéricho. Alors Jéricho, c'est la première ville conquise au moment de la guerre de 67. Et même d'ailleurs, dans la première guerre, il y avait eu une bagarre à cause du pont, de tout ça. Et il y a deux problèmes là emboîtés, qui ne sont pas inintéressants.
Le premier, c'est que ça permet aux Israéliens de contrôler les retours. Or, le problème des retours est pas traité. Comment peut-on expliquer que tous les Juifs du monde, c'est la théorie sioniste dans sa simplicité première, hein, peuvent retourner à RS Israël? Et comment on va expliquer aux gens qu'ils ne peuvent pas rentrer en Cisjordanie? Là, il y a un petit problème qui est loin d'être résolu. Moi, j'ai une hypothèse anthropologique sur l'histoire longue. Les Palestiniens étant devenus comme les Israéliens, comme les Juifs, la diaspora la plus extraordinaire du XXe siècle, je pense que les Palestiniens de New York, ils resteront à New York avec leurs collègues juifs new-yorkais et qu'ils ne viendront pas à Gaza. Ça semble pas assez évident. C'est pas évident pour les gens des camps et c'est pas évident. À Amman, maintenant, il y a des gens qui resteront en Jordanie parce qu'il n'y a que le pont à traverser. Donc reste un seul problème. Contre quoi les Israéliens vont échanger? Le seul endroit où les colons posent problème, c'est pas du tout à Gaza et c'est pas du tout à Jéricho, c'est les colons religieux, c'est-à-dire Kiryat Arba et Hébron. Parce que là, on est devant un problème qui dépasse l'anthropologie et la science politique, c'est que des colons, j'allais dire, économiques, ceux qui ont été dans les territoires occupés parce que les loyers étaient moins chers, bon, on leur propose des loyers, ils vont ailleurs. Mais les colons religieux des deux blocs, Kor ou Gauche et Moumine, qui eux pensent que Dieu a donné sans partage la Judée et la Samarie, cela ne les fera pas partir. Et que le danger ne vient pas nécessairement, comme on l'a dit trop facilement, des extrémistes des deux bords. On revient à la question première. Il vient, qu'est-ce que dans le judaïsme et dans l'islam, il y a d'incompatible entre un état religieux et un état moderne? Eh bien moi je dis simplement qu'il y a actuellement en Palestine beaucoup plus de gens qui ont franchi le Rubicon sur ce plan-là et qui se contrefoutent de l'état religieux. Et je pense, Salibovitch me l'a bien expliqué dans une longue interview que j'ai faite de lui, et en même temps il y a ses travaux là-dessus. Il y a par contre des gens, alors je ne dis pas de mots péjoratifs, il y a des juifs ultra-conservateurs, comme dit Emmanuel Sivan, ou des orthodoxes, qui ne céderont pas sur ce problème-là. Et comme ils ont une longue habitude et du ghetto et de la paranoïa et de la martyrologie, cela on les délogera pas. Je veux dire, ça sera pas aussi simple que ça. Alors je vois donc deux problèmes inversés qui tournent tous, c'est-à-dire quelle administration, quelle police, qui va passer, etc., qui tournent tout autour de la nature de l'État. Par contre, si loin de l'État nationaliste ou hegelien ou religieux, juif ou musulman, on fait une confédération souple, c'est évident que la circulation des personnes et l'implantation des personnes sera beaucoup plus facile dans un État rigide à passeport nationalitaire. Ça, c'est donc le seul espoir, c'est qu'ils inventent ensemble une nouvelle forme de relations sociales qui passe pas nécessairement par l'État-nation. Je termine sur l'État de droit. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que nous, on est complètement obsessionnels avec notre Conseil constitutionnel, notre Conseil d'État, notre Constitution. Mais moi, j'ai vu des gens là-bas qui disent « Mais on n'en a rien à foutre d'un État de droit. » C'est quoi un État de droit? D'ailleurs, ils disent « Il y a des tas d'États qui fonctionnent sans État de droit, au sens où... » Alors, pas simplement l'européocentrisme nous le fait dire, mais le franco-franquisme, là. Est-ce qu'il n'existe pas des formes de relations? Parce que, de toute façon, ça ne peut être que des États qui ne seront pas dans la complétude de l'État. Parce qu'il n'est pas question qu'on laisse à n'importe qui la défense, la sécurité militaire, un certain nombre de choses. Alors si vous voulez des drapeaux, des ambassadeurs, vous occuper de... Bon, il me semble que dans le partage, les choses sont très très claires. La société civile, l'éducation nationale, la santé, bon, tout ça c'est facile à gérer. Mais qui va avoir la souveraineté et comment vont s'organiser les modalités de souveraineté? Encore un point que je soulève, le Conseil national palestinien, moi je ne dis pas qu'il est plus ou moins démocratique que le Parlement israélien, je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais c'est vrai que par exemple, si on fait une Palestine relativement autonome dans 5 ans, est-ce que les colons juifs voteront en Israël ou dans le territoire? Si on fait une république islamique, moi je dirais que je préfère le bordel démocratique. Si on fait, sur ce plan-là, les Israéliens ont quelques avances. Si on fait les modalités d'organisation emboîtées par la société civile elle-même, les Palestiniens ont des trucs à dire. Mais si on doit venir à une représentation des communautés, et une représentation politique des communautés, bon, aucun intérêt. Dire on ne va pas s'en sortir parce qu'il y aura fatalement le statut de Dzimma qui va revenir dans l'inconscient collectif des gens. Le statut de Dzimma, c'est-à-dire, est une des clés qui explique pourquoi l'Arabie Saoudite en particulier ne voudra jamais d'un État palestinien. C'est-à-dire, l'Arabie Saoudite, à la limite, ils s'en contrefoutent d'Israël. Ça n'existe pas. Mais ils ne voudront jamais d'un État palestinien. Parce qu'un État palestinien, au cœur du Proche-Orient comme ça, ça change toutes les cartes. Ça va obliger les alliés de l'Arabie Saoudite, tant pis pour eux, à mettre un peu les points sur les i à ce pays qui vient encore d'exécuter au sabre un certain nombre d'émigrés. Donc ces jours-ci, il y a le rapport d'Amnesty International qui vient d'être confirmé, l'Arabie Saoudite a exécuté 8, 10, 80 personnes au sabre. Alors, pourquoi? Parce que
la conception de l'État orthodoxe religieux musulman est fondée sur la hiérarchie des communautés et non pas sur l'abstraction de la citoyenneté. Et on va constamment voir revenir ce problème que moi j'ai fait ma thèse là-dessus, hein, autrefois ma thèse de droit. Un des drames de l'Afrique du Nord, par exemple, c'est d'avoir perdu l'habitude de ses minorités. Alors nous savons que quand une société est à la fois complètement univoque, unique dans sa composition, elle ne peut plus prendre l'habitude de la gestion de l'autre. Alors là, on a une chance. Il y a des chrétiens palestiniens, et non des moindres, et dans la gauche palestinienne. Il y a des arméniens, vous avez vu dans la représentation de palestinienne. Il y a des gens, je rappelle que l'ancien représentant de l'OLP à Paris était protestant, luthérien. Il y a toutes les communautés religieuses qui gèrent Jérusalem. Il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des druzes, il y a des coptes. Bon, on ne va pas perdre cette chance inestimable en nous faisant un statut de droit musulman pour le nouvel État. Non, si on fait une confédération, qu'il y ait une double citoyenneté, une double nationalité et une double représentation, ça c'est pas impensable. C'est-à-dire un parlement où il y ait des citoyens, des nationaux et des représentants des communautés, c'est concevable, ça existe d'ailleurs au Canada. C'est-à-dire que contrairement au jacobinisme français, on ait des mécanismes de représentation, que les communautés, par exemple, moi je sais pas, les syriaques, ou bien le fait qu'il y a quelques lieux religieux à Jérusalem qui sont gérés par des petites minorités, ben, qu'ils aient un représentant au Parlement, pourquoi pas, à condition que ça ne dépasse pas un 90e dans certaines conditions. Mais si on laisse tomber l'abstraction de la citoyenneté, même avec double nationalité, ben, on repart comme en 40 sur l'État national, le groupe d'exclusion, etc., etc. Bon, or, sur ce plan-là, d'après ce que j'ai vu, moi, la gestion à Birzeit, les Palestiniens ont une avance sur tout le monde, c'est que l'appartenance confessionnelle ne les intéresse pas. Alors, quelle va être l'attitude des États? La Syrie, j'ai déjà dit mon sentiment. Je vais dire des choses très cruelles. Moi, j'ai jamais vu une armée syrienne délivrer la Palestine. Par contre, j'ai vu une armée syrienne écraser les peuples arabes, plusieurs fois. Donc, se pose pas la question de la Palestine, la question du Liban. Est-ce que les Américains ont donné le Liban pour qu'il participe, pour que la Syrie participe à la guerre du Golfe? Ce que je crois. Ça a été le deal qui a été fait au moment de la guerre du Golfe. Est-ce qu'on va exiger de la Syrie qu'elle respecte un certain nombre de conventions internationales à propos du Liban? J'en suis pas sûr du tout. Et à mon avis, il y a un accord là-dessus avec Israël, et les acteurs secondaires, là, peuvent continuer à imposer leur volonté. Donc la Syrie ne bougera pas le petit doigt sur la nature de l'État palestinien. Deuxièmement, je rappelle par parenthèse, pour ceux qui croient aux agitations browniennes et verbales, que toute l'opposition palestinienne qui crie à Damas ne peut pas bouger le petit doigt sans l'autorisation des mohabarat syriens. Alors c'est du pipeau. Un peu plus compliqué le problème du Hezbollah, parce que le Hezbollah libanais est relativement autonome. Pas du Conseil de la Révolution iranienne, mais il est relativement autonome, c'est-à-dire il emmerde les Syriens. Mais en gros, il y a un deal et un accord entre la Syrie, le Liban et Israël sur ce chapitre-là. C'est à supposer que le Liban existe encore. Pour la Jordanie, le roi de Jordanie rêve de mourir comme son grand-père, c'est-à-dire en étant redevenu le shérif de la Mecque. Et moi je suis sûr que si on dit... Bon, ça veut dire qu'il faut se débarrasser des Bani Saoud, mais ça, les Yéménites vont s'en servir, vont s'en charger dans quelques années, vous allez voir. Le prochain conflit au Moyen-Orient, c'est le Yémen et l'Arabie Saoudite. Si on régule les lieux saints de Jérusalem, ça implique qu'on régule d'une certaine façon les lieux saints de l'islam, parce qu'il y a quand même beaucoup de musulmans qui se posent des questions sur la gestion des lieux saints. Et là, le roi de Hussein de Jordanie est une solution. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution pour la Jordanie qui n'existe pas. Je vous rappelle que c'est des États qui ont été créés complètement artificiellement. Troisième attitude, l'Égypte, on lui avait promis quelque chose, me semble-t-il, qu'on n'a pas tenu. C'est l'Égypte qui devait servir, après la guerre du Golfe, de sorte de chouchou international pour le Moyen-Orient. L'Égypte, je vous rappelle, a déjà signé la paix. L'Égypte en a marre de la guerre. L'Égypte a été étranglée par toutes les guerres. L'Égypte est exsangue. Elle a complètement intérêt à la paix. Et assez curieusement, même le Soudan a dit le choix du peuple palestinien, nous le respecterons. Donc, quant aux autres, ils sont tellement loin, n'en parlons pas. Où est le problème?
C'était l'Histoire continue et permanente, une émission réalisée par Éric Lebreu, Radio Galère, mars 2026.